Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne.
Je ne sais pas si tu peux revenir à l'idée que tu vas vivre dans un monde inconfortable. Ça, j'ai du mal à le croire que tu vas te quitter tout ton confort moderne. Mmh. D'abord, ça ne serait pas vraiment enviable. On est très heureux de vivre comme on vit. Donc, la question, c'est quelle quantité d'inconfort tu as besoin pour développer toutes ces résistances physiologiques que le corps a naturellement à sa disposition. On l'a vu avec le froid, c'est pas tant que ça, puisqu'à partir de 11 minutes par semaine, tu redéveloppes cette capacité. Quand tu vas...
Tu me mettras des liens, les 11 minutes par semaine, ouais, des choses, sûr. Quelques études, ça m'intéresse,
on va,
évidemment.
On va mettre toutes les études en lien, okay. C'est une très bonne idée. Et ce qui est intéressant, c'est justement de dire, à partir du moment où je vais faire ces 11 minutes par semaine, je vais développer physiologiquement cette défense au froid, et par effet de conséquence, j'aurai moins froid en mettant moins de chauffage chez moi. Le but n'est pas de percevoir ça comme un inconfort continu. Par exemple, quand le chauffage était chez moi à 18 tout l'hiver, j'avais pas froid. J'ai jamais senti que par rapport à l'année dernière, mon confort personnel avait baissé. Mon confort personnel était exactement le même que l'année dernière. Mais en revanche, ma défense immunitaire étant plus puissante que l'année dernière, j'avais besoin de moins chauffer pour me sentir à l'aise. C'est comme ça qu'il faut le percevoir. Alors évidemment, il y a un gain chauffage associé à mettre le chauffage à 18 et un gain écologique à mettre le chauffage à 18. Mais je pense surtout pas qu'il faut le faire dans le mauvais sens. C'est pas d'abord je mets le chauffage à 18 et puis tout l'hiver je suis pas bien chez moi et je tombe malade parce que j'ai flingué mon système immunitaire. C'est d'abord je me fais un corps plus fort. D'abord j'accepte l'hiver. Que l'hiver ça se prépare. C'est comme un marathon l'hiver. On n'arrive pas en hiver tout frais comme ça en imaginant que ça va bien se passer. L'hiver se prépare comme un marathon se prépare. Je m'expose au froid progressivement. J'accepte psychologiquement l'idée que ça va être une saison difficile et je passe l'hiver par une routine qui va booster mon métabolisme.
Et alors, est-ce que le bain froid a autant d'importance l'été que l'hiver ?
Oui. En été, t'as moins besoin de te préparer à vivre dans une saison froide. Donc, pour toute cette partie-là, je te dirais que c'est moins important en été de développer ces graisses brunes. En revanche, pour toute la partie qui est le bénéfice au quotidien que tu vas avoir au niveau de ta dopamine, de ton adrénaline et de ton stress, ça, tu peux l'avoir toute l'année. C'est pour ça que les Australiens le font toute l'année dans un climat qui est beaucoup plus chaud que le nôtre. C'est parce que justement, il y a ce bénéfice associé à chaque bain qui n'a rien à voir avec la saison.
Les Australiens, alors c'est intéressant, tu dis que ça a été vraiment poussé par les Australiens, mais en fait, pourquoi on ne parle pas tant que ça des Nordiques ? Enfin, c'est quand même la sortie du sauna. Alors oui, eux, ils retournent dans le chaud directement après, mais sortie du sauna, on va dans la banquise, on fait un trou, on se met dans le froid pendant un petit bout de temps, on retourne dans le sauna. C'était quand même, j'imagine, un peu l'idée. Ils sont pas juste masochistes.
On peut vraiment parler des Nordiques. La Finlande est le pays le plus heureux du monde. Si tu regardes au niveau de la population et si tu regardes sur Google, le peuple le plus heureux du monde, c'est la Finlande. C'est quand même un peuple qui vit dans des conditions sacrément hostiles. Et si tu veux, pour moi, ça pousse l'idée du confort et du bonheur chimique. Te plonger dans le froid va activer cette hormone du bonheur. Aller faire des saunas, de la même manière, va te mettre dans un état chimique de bonheur. Et donc tu peux te poser la question de savoir si c'est pas ta routine qui te rend heureux versus tes conditions extérieures qui te rendent heureuse. Et je pense que les Nordiques ont développé ces cultures parce que justement ils vivaient dans un monde qui est très hostile une grande partie de l'année. Mmh. Et qu'il fallait développer le moyen de renforcer le système immunitaire dès le plus jeune âge, il fallait trouver le moyen de se créer une saison estivale en plein hiver à l'intérieur du corps.
Hyper intéressant.
Et qu'en ayant un corps plus fort, en ayant par le sport, en ayant ces pratiques physiologiques d'exposition au chaud et au froid, ma perception de l'hiver, malgré son hostilité, n'est pas la même. Parce qu'encore une fois, c'est très important, le bonheur, il est chimique. Ce qui fait que je me sens heureux dans mes pompes tous les matins, c'est que j'ai un niveau de dopamine qui circule dans le sang qui est élevé, à la fois en valeur absolue, mais surtout en perception de ce que j'avais avant.
Si vous pensez que... Alors moi, je te suis complètement là-dessus. Il est chimique. Si vous pensez que Cardozo, une fois de plus, a fumé la moquette, sachant qu'il ne fume pas grand-chose, a priori.
Je ne fume pas.
Dans le bonheur qui est chimique, je te rejoins dans une certaine partie, c'est-à-dire que il est aussi, je pense, un peu dans une forme de choix. Mais en tout cas, souvent, on va dire le bonheur, c'est peut-être les conditions, l'argent, le lieu, la famille. En fait, tu vois des gens qui arrivent à être heureux. Encore une fois, on parle pas que des Finlandais, hein, mais dans la pauvreté, dans des tas de conditions qui sont pas les nôtres, pas les vôtres probablement, ceux qui nous écoutaient, mais juste parce qu'ils ont alors peut-être un peu choisi et peut-être qu'il s'impose ce genre de choses. Tu crois que c'est un peu des deux aussi ? Il y a aussi une question...
Alors, moi, ce que je crois, c'est qu'on a...
T'as été malheureux dans ta vie ?
J'ai eu des phases difficiles. Dans ma première boîte, beaucoup de stress. Avoir l'impression que j'arriverais pas à relever ce challenge. Avoir l'impression que l'environnement devenait trop difficile. Entre la concurrence des taxis, d'Uber, etc. À un moment donné... Je sentais pas que j'étais en possession des éléments qui permettaient de relever le challenge. Donc, je sais ce que c'est que d'être dans une position difficile de stress. Mais ce que je pense surtout, c'est que...
Tu le cachais ?
Ouais, bien sûr. en tant qu'entrepreneur,
je suis en maîtrise.
Tu montes jamais tes faiblesses, mais c'est probablement comme ça que tu développes des maladies, c'est que le stress te ronge.
Tu montes tes mains ?
Ouais, parce que j'ai de la dépigmentation sur les mains. J'ai fait un vitiligo, qui est donc une maladie auto-immune.
Sur les pieds, j'ai vu tout à l'heure aussi. Ouais. J'avais vu sur tes pieds avant les mains.
Probablement lié au stress. Ça fait partie de ces maladies occidentales que la médecine occidentale n'identifie pas comme liées au stress, mais que personnellement, j'identifie et que je lie au stress. Et c'est ce qu'en médecine chinoise, en tout cas, et qui sont des médecines plus de la prévention, ils associent toutes ces maladies de peau dites bénignes, comme l'eczéma, le psoriasis, ça peut être des pelotes de barbe, ça peut être des grisonnements de la barbe, etc. Ce sont des maladies qui sont des expositions sur la peau d'un stress inflammatoire qui peut être un stress ou qui peut être un déséquilibre sur une alimentation.
Okay.
Mais ce que je voulais revenir un peu en arrière sur ce que tu disais, c'est que on vit dans un monde où on a développé le culte de la réussite sociale comme étant l'objectif, si tu veux, la fierté et le bonheur. Tu disais, est-ce que le bonheur c'est d'avoir plus d'argent, est-ce que c'est le bonheur, c'est, etc. Je te dirais oui, mais le problème que t'as dans ce monde-là, c'est que tu condamnes une petite partie de la population à accéder au bonheur, mais tu condamnes surtout une grande majorité de la population à pas y avoir accès. Parce que tu n'auras jamais un monde dans lequel tout le monde est riche. C'est par définition pas possible, puisque dans ce cas-là, tous les prix monteraient et tu te retrouverais de nouveau dans la même situation où la valeur unitaire de l'argent t'apporterait moins. Donc,
ce qui est intéressant, c'est d'être plus riche que les autres, en fait. C'est plutôt ça, le game.
Je pense que c'est justement ça, le sujet. Si la seule façon d'être riche, c'est d'être plus riche que les autres, dans toutes les situations, tu n'auras jamais tout le monde qui est riche. Donc, il faut développer, selon moi, une culture où tu peux avoir une fierté d'accomplissement qui n'est pas que par l'argent. Et dans une société, comme la société australienne ou comme la société américaine a su le démontrer, où tu mets en avant et tu valorises le développement physique comme étant une forme de réussite, tu permets à d'autres formes de personnes d'avoir cette réussite sociale. Si tout d'un coup avoir un corps parfait, si tout d'un coup avoir des compétences physiques extraordinaires, savoir courir un marathon, sont des choses qui sont reconnues par la société comme étant des vraies vertus. Et je te rappelle qu'aux États-Unis, tu peux quand même accéder dans les plus belles universités juste sur tes compétences sportives. Ça montre bien à quel point ils le valorisent beaucoup plus que nous. On rentre pas à HEC parce qu'on est fort en foot, hein, sauf si jamais j'ai raté une étape. Mais c'est pour moi fondamental dans cette idée de la Startup Nation de créer justement une autre idée qui est la Health Nation, d'avoir un culte de la bonne santé et de mettre en avant et de valoriser et de reconnaître que celui qui a un corps qui montre et qui reflète cette discipline est un mec qui mérite la reconnaissance et l'admiration des autres, parce que justement ça élargit considérablement l'espoir de réussite sociale. Tu réussis pas que par ton argent, tu réussis par un autre biais qui ne nécessite pas d'argent. Se lever le matin et faire des pompes et faire des squats et faire du sport avec n'importe quelle application, ça nécessite pas d'avoir accès à une salle de gym chère. Aujourd'hui, moi j'ai créé une communauté où on se retrouve tous les mercredis avec d'autres entrepreneurs et d'autres copains. Il y a Aldric de Climb que tu connais, qui vient tous les mercredis à la maison. On se retrouve le matin, on fait du sport ensemble, sans équipement particulier, et on commence notre journée par ce challenge à la fois du froid et de l'exercice physique qui te conditionne ensuite à avoir une sorte de fierté intérieure. Tu vois que tu te dépasses, tu vois que tu te progresses semaine après semaine, tu vois tes compétences qui montent, comme quand tu prépares un marathon, ça génère véritablement une fierté en toi.
Tu me parles d'Aldric, pardon, mais vous ressemblez vachement. Et non, vous pourriez être frère, vous ne l'avez jamais dit ?
On pourrait être frère.
Ouais.
Bon, Aldric, je le connais depuis que j'ai 15 ans.
Aldric est milieu de Climb, en effet. Qu'on salue, ainsi que sa sœur d'ailleurs, puisque c'est elle qui m'a eu le dossard pour le marathon des JO. C'est intéressant, mais moi j'adore en plus ces logiques de club, et j'adore ces logiques de club matinaux, où de nous on avait ces... Je le fais plus là, parce qu'il court plus d'ailleurs, mon pote Tristan, mais plus trop en tout cas, mais le 6 du mat à la place de l'Étoile, le lundi matin. Tu vois, en plus, ce que j'aime bien dans ces trucs, c'est le lundi matin, quoi. Le lundi matin, le jour où t'as vraiment pas envie, tu vois, le premier. Enfin, en fait, quand tu le fais le lundi matin, ça te donne la tonalité pour ta semaine.
Absolument. Quoi,
tu vois. Donc, 6 du mat, après, en fait, derrière, t'es invincible, quoi.
Invincible.
Parce que le lendemain, voilà, ce que je trouve difficile dans tout ça, parce que tu vas m'expliquer un peu toutes les autres routines, ou toutes les autres, je sais pas si ce sont des privations ou changements que t'as pu faire là-dedans, mais c'est que, moi, j'aime bien l'idée, en fait. Là, en ce moment, je suis assez fort, je me lève à 6 du mat beaucoup, je cours, j'ai dû le faire 3 fois cette semaine. Je trouve ça cool, mais encore une fois, j'ai un marathon. Puis après, en fait, tu te fais rattraper par, je suis invité à tel événement, donc je dis non à tout, finalement, parce qu'il faut, enfin, pour se lever à 6 du mat, tous les jours, il faut dormir à 11h, quoi. Voilà. C'est que 11h, tu dors, et a priori, t'as pas bu 2 pintes, 2 à la limite, ça va. Mais voilà. T'es quand même rentré dans un trip où t'es en maîtrise. Si tu te couches tous les jours à 1h du matin, les 6h, tu l'oublies. En tout cas, sinon, tu finis par exploser.
Je pense que tu as tout à fait raison. Ce qui fait que tu peux changer ta vie, c'est que tu t'imposes une rigueur de vie. Si je dois faire du sport avec des copains le matin à 8h, que je sais que mes copains vont être en forme pour faire du sport, ça va conditionner la manière dont je me couche la veille. Et je vais être capable de refuser de boire une 2e pinte parce que je sais que le lendemain matin, je vois mes potes et que j'ai pas envie d'être ridicule quand je fais du sport avec eux. Et donc, non seulement c'est sain de faire du sport le matin, non seulement c'est sain de voir ses potes le matin et d'avoir de cocher la case sociale, mais c'est surtout sain parce que ça conditionne la manière dont je vais me coucher le soir. Et que c'est la motivation dont j'ai besoin pour refuser ces tentations le soir en société.